La fée de Gennevilliers. Je ne l'ai pas vue tout de suite. En fait, je l'ai d'abord entendue. De faibles sanglots venus d'en bas, on aurait dit qu'ils sortaient du sol. Je me suis arrêtée net, intriguée, stoppant le flot des voyageurs qui descendaient à la station Gabriel-Péri sur la ligne 13, et déclenchant un concert d'imprécations et d'insultes plus ou moins imagées. Les gens sont très en forme lorsqu'ils vont bosser le matin. Et je l'ai découverte, recroquevillée sur une des marches du métro, une minuscule ado de 20 cm de haut, une fée, me suis-je dit, émerveillée. Je l'ai prise délicatement dans ma main pour l'examiner. Vous voyez la fée Clochette? Eh bien, oubliez-la. Ma fée à moi ne porte ni tutu rose, ni paillettes. Elle a les cheveux en pétard, du col sur les yeux, un jean et un perfecto déchiré. Le seul truc conforme, si j'ose dire, ce sont ses ailes. Elles sont fragiles, délicates et irisées comme des ailes de libellule. Elle a d'abord été effrayée en découvrant mon visage en gros plan s'approcher d'elle. Et franchement, je ne peux pas la blâmer. Je gagne à être vue dans la pénombre ou de loin. J'ai chuchoté « Que t'arrive-t-il, petite fée? Je peux t'aider ?» Et elle m'a montré d'un air piteux son aile gauche qui pendait lamentablement. Alors je l'ai mise dans ma poche et j'ai foncé au journal. Il faisait un froid de canard ce matin du 15 décembre. Le sol était glissant, recouvert de neige fondue et grisâtre. Rien de folichon. Ma fée s'agrippait à ma poche et découvrait les yeux ronds, un monde d'immeubles qui devait lui paraître gigantesque au regard de sa gracile silhouette. Arrivée au journal, j'ai galopé jusqu'à mon bureau et j'ai appelé Béné. Elle travaille au service santé et tout le monde a pris l'habitude de la consulter. Béné, t'as un truc pour le mal de gorge, la digestion, les jambes lourdes? Et elle a toujours quelque chose. La surprise passée, pas tous les jours que j'amène une fée au bureau, Béné s'est révélée un véritable orthopédiste. Elle a pris une lime à ongles, l'a cassée en deux et a fixé l'aile de ma fée avec du bolduc. Un peu de repos et ça devrait être remis d'ici 10 jours, a-t-elle déclaré doctement. Alors j'ai foncé voir Elisabeth. Il faut que je vous dise que je travaille dans un journal créatif. Ici, il n'est pas rare de croiser des sapins de Noël à Pâques, des gâteaux de contes de fées, des filles très occupées à fabriquer des carottes et des navets au crochet, des stagiaires lancés dans un concours d'origami. Elisabeth, c'est notre madame doigt agile. On va la voir quand on a une maille qui lâche, besoin de raccourcir une jupe ou une envie de tricot fait main. Elle travaille derrière une montagne de catalogues et de patrons et de livres. Et sur son bureau, les aiguilles à tricoter en bambou voisinent avec des ciseaux géants, des navettes de fil à broder, de la colle pailletée et autres accessoires indispensables. Elle a adoré ma fée, elle aussi, lui a souri. Puis, elle a écouté ma demande et m'a dit de repasser la voir un peu plus tard. Avec tout ça, la matinée avait filé. Elle n'avait pas été d'une intense productivité. Mais il y a des jours comme ça, il faut en prendre son parti avec sagesse et philosophie. Alors j'ai emmené ma fée à la cantine. Avec Béné, on l'a mise sur une soucoupe et on lui a servi du thon émietté et des confettis de frites dans une tasse à café. Eh bien, je peux vous dire que ça mange une fée. La mienne était dotée d'un appétit inversement proportionnel à sa taille. Nous sommes retournés voir Elisabeth, ma fée et moi. Elle avait fabriqué dans une boîte à stylo un lit pour fée, tout tapissé de velours, une éponge en guise de matelas et un minuscule oreiller cousu dans un mouchoir rempli de coton. Un morceau de feutrine faisait une couverture des plus convenables. Ma fée a battu des mains, elle s'est couchée et je lui ai trouvé un petit endroit sur mon bureau pour dormir. Je n'ai pas répondu au téléphone et j'ai très peu tapé à l'ordinateur pour ne pas troubler son sommeil. J'ai séché toutes les réunions et j'ai fini par m'endormir à côté d'elle. Ma fée et moi sommes devenus inséparables. Elle se tenait sur mon épaule, gracieusement assise en tailleur, et le beau gosse de la fabrication a enfin daigné s'intéresser à moi. À la maison, les garçons filaient doux et essayaient de la charmer. Mais j'ai refusé fermement qu'il l'emmène à l'école. Ce n'est pas un animal de cirque. Elle est restée jusqu'à Noël, le temps que son aile se répare. Et le soir du réveillon, elle a battu délicatement des ailes, a pris son envol et est allée se poser tout en haut du sapin, sous les applaudissements des enfants. Elle nous a raconté sa vie, un vrai conte de fées. Elle habite l'une des villes des souterrains de Gennevilliers. On croit que les fées et les elfes sont des peuples des forêts, mais ils ont évolué, émigré, colonisé de nouveaux territoires, bien obligés. Ils ont creusé des rues entre égouts et métro, toute une cité miniature. Ils meublent leur maison grâce à la récup, lit dans des boîtes de sardines, berceau en bouteilles de lait, couvert de camembert en guise de table. Certains lutins ont élu domicile en haut des poteaux électriques, d'autres dans les catacombes. Et tous ces mini paroissiens sortent à la tombée de la nuit. Ils sont devenus nyctalopes comme les chats. Alors, j'ai ramené ma fée près de chez elle un soir. Les enfants ont un peu pleuré, elle aussi d'ailleurs, quand je lui ai offert un perfecto qu'Elisabeth avait taillé dans un de mes vieux sacs à main. Elle m'a gracieusement envoyé un baiser de ses doigts fins comme des pétales de marguerite et a disparu dans une bouche d'égout, tout près du 15 rue Henri Barbusse, à Gennevilliers. Depuis, j'ai un curieux sentiment d'absence sur mon épaule gauche.